parole rurale, l'émission de reportage à la rencontre des paysans qui nous entourent,
ou le quotidien en milieu rural raconté par ceux qui le vivent.
Merci Bérangère de nous accueillir au bord du Tarn, à Peyrelo.
Eh ben, je suis Bérangère, je suis maraîchère et monitrice d'escalade depuis, ça fait un an. Du coup, c'est ma deuxième saison là en tant que maraîchère. Et ça fait plus de 20 ans que je suis monitrice, enfin presque 20 ans que je suis monitrice d'escalade. Et voilà, donc on est à Peyrelo, dans une petite plaine agricole. Oui, donc il y a les falaises là-bas au fond de Capluc. Ici, on est donc confluent du Tarn et de la Jonte. Donc il y a des falaises d'escalade tout de suite là dans la Jonte au-dessus du Rosier. Et puis, puis un peu plus loin, là après, aux vignes, c'est ici qu'on grimpe.
Et donc là, on est en train de traverser ton terrain. Tu peux nous dire ce que l'on peut voir autour de nous ?
En fait, là, on va sur le terrain de ma voisine Rosalys, qui s'installe aussi bientôt en maraîchage. Et on partage du coup la serre à semis ensemble. On a fait des couches chaudes, donc je vais te montrer pour faire démarrer nos semis.
Donc là, on est dans la serre avec du fumier. Et tu essaies de faire chauffer
Regarde,
tes plants.
Il fait presque 18 degrés au sol. Donc c'est bien, tu vois, les tomates, il leur faut 18 minimum. Ouais. Il paraît que c'est bien le fumier de cheval, que ça chauffe mieux que vache ou brebis. Puis surtout, tu vois, il est bien pailleux et apparemment ça aide bien au fait que ça chauffe.
Donc là, tu as une vingtaine de caisses là.
Ça, c'est celle de Rosa.
D'accord.
Moi, les miennes, c'est ça, ouais. Et là, aujourd'hui, je vais en refaire d'autres aussi. Là, aujourd'hui, c'est journée racine. Donc, je vais refaire des petits semis. En fait, l'inconvénient, tu vois, d'avoir une couverture végétale là, sur les planches, c'est que, en fait, pour faire du semis spontané, bon, il faut tout enlever. Mais moi, j'ai du mal à faire des semis sur la terre. Et du coup, ça, j'ai plein de limaces. Donc, du coup, tu vois, comme les blettes et les épinards, là-bas, je les fais démarrer sur des petites plaques alvéolées que je vais repiquer après. Tu vois, j'écarte ma paille et je repique dedans pour mettre dans ma terre. Du coup, comme ça, au moins, j'ai pas de perte, tu vois. Et puis, c'est plus facile à arroser. Je me fais moins manger par les limaces et ça me démarre mieux, quoi. Ah, regarde, là, du coup, on a quelques plants de tomates qui sont sortis. Et c'est, pour moi, c'est un peu une référence. C'est vrai que les tomates, je te dis, c'est un peu comme les poivrons aussi que j'ai démarré, je sais plus où. Un peu plus tard, les poivrons, je les ai mis. Ça aime la chaleur à sortir, donc ça veut dire que ça marche. Bah, il faut qu'il soit jeune, le fumier, tu vois, pour que ça puisse démarrer une fermentation. Et puis souvent, ils te le font payer maintenant dans les centres équestres. Enfin, même, t'as vu, maintenant, le broyat de bois... Pareil, ils le font payer. Et du coup, nous, on a trouvé un centre équestre où ils nous le filent gratuit. Donc, c'est plutôt cool. Il faut juste aller le chercher. Et là, on a quand même deux camions bennes de fumier. Donc, ça représente un peu de budget.
Et quand est-ce que tu mettras tes plants en terre, là, ou en tout cas sous la paille, dans la terre que tu as préparée ?
Ça dépend des variétés. Pinard, blette, ça devrait aller assez vite. Eux, je vais les mettre, il me semble que faut que je regarde mon plan, mais il me semble que je vais les mettre en pleine terre. Dès que je vois que c'est un peu assez fort pour pouvoir pousser tout seul, quoi.
Tu vois. Quand tu dis regarder ton plan, c'est quoi ? Tu te fais un plan de...
Ouais, j'ai une carte. Attends, je ne l'ai pas là, mais je me suis fait, par rapport à toutes les lignes de goutte à goutte que j'ai, tu vois, j'ai fait un plan pour savoir pour savoir où est-ce que je vais planter quoi et savoir selon le nombre de trous combien il faut que je prépare de pots, de plants de tomates ou de plants d'épinards et tout ça à repiquer.
C'est une organisation à la Bérangère ou tout le monde fait comme toi ?
Ah, c'est un peu olé olé, ouais.
D'accord.
C'est un peu olé olé. Mais en fait, je sais pas, comme je maîtrise rien, tu vois, que j'ai jamais trop fait ça en cours, en fait, j'ai eu l'impression de me faire vite déborder, tu vois, par l'organisation, par du prévisionnel. Et en fait, c'est super important. Ça m'a pas pris tant de temps que ça, mais c'est super important de le faire parce que du coup, moi, je me disais, ah, je vais planter, on verra bien. Et en fait, c'est important de le faire pour savoir combien il faut que tu fasses de plants.
Et comment tu arrives à ce métier ?
J'ai toujours aimé en fait cultiver déjà pour moi-même, en fait, avoir une bonne alimentation, je trouve que c'est important. Et puis j'aime bien l'idée aussi que c'est un métier noble finalement, tu vois, on est considéré comme des paysans parce que, je sais pas, peut-être parce qu'on est pauvre ou parce qu'on travaille avec la terre ou... Bon, moi j'ai pas d'animaux, mais tu vois, quelqu'un qui a des animaux, ils sont pas bons, il est sale, je sais pas, peut-être que les gens ils ont une vision, ouais, même il y a pas si longtemps que ça, dire ouais t'es un paysan, c'est un peu une insulte quoi, t'es un clodo, mais... Mais tu vois, moi, je suis originaire de banlieue parisienne. Et c'est vrai que je m'en rappelle, il y a le fils, non, le cousin d'une de mes voisines. Il avait raconté à sa maîtresse que... qu'il voulait devenir agriculteur quand il serait grand. Et la maîtresse, elle l'avait dénigré, tu vois. Je sais pas, j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, tu vois, être paysan, c'est être un plouc un peu, tu vois. Alors peut-être moins ici, parce qu'on est dans un milieu rural, tu vois, et que les gens, ils savent ce que c'est de travailler la terre, mais...
Souvent, ils le renvoient comme ça, alors que franchement, moi, ce qui m'amuse et ce qui m'intéresse dans cette émission, c'est que je côtoie énormément de paysans qui ont un savoir-faire sans forcément avoir fait beaucoup d'études, et du bon sens qui dépasse largement ceux que... qui ont fait parfois beaucoup d'études et qui ont plein d'idées et qui ne savent pas regarder la nature, la laisser pousser et leur donner la parole à travers cette émission. Je trouve ça génial.
Et surtout, heureusement qu'ils sont là pour nourrir la planète.
Et puis, nombre d'entre eux vivent quand même pas très bien le regard que peuvent avoir justement les écolos, les parisiens ou les vacanciers qui viennent en disant « mais vous utilisez les produits ». Vous ne travaillez pas correctement, une sorte d'agribashing. Ils aiment leur métier, ils le font bien, prennent soin des bêtes. Tu as choisi ça en complément de ton activité ?
Oui, et puis parce que après le confinement, moi, ça me faisait du sens, en fait. Tu vois, je me disais, j'ai toujours travaillé du tourisme. Et c'est vrai que ça me laissait beaucoup de temps. Je gagnais bien ma vie en peu de temps et ça me laissait beaucoup de temps libre, en fait, pour faire ma passion. Et en fait, tu vois, le confinement m'a fait penser que peut-être tout ce monde un peu capitaliste, tu vois, pouvait s'effondrer ou en tout cas diminuer, et du coup ma source de revenus pouvait aussi diminuer, et du coup je me suis dit c'est peut-être le temps, en fait, tu vois, de passer le cap, en fait, parce que ça fait longtemps que je veux vivre du maraîchage, mais comme ça rapporte pas, j'ai jamais pris le temps de, ou j'ai jamais eu le courage de le faire, tu vois, de passer à autre chose. Et là je me suis dit, ça me fait sens, tu vois, si le tourisme s'effondre, eh ben, ça me fait sens, en fait, de nourrir les gens, de cultiver des bons légumes. Moi, ça me permet d'avoir un petit peu, d'assurer mes arrières. Et en même temps, moi, je le considère comme un travail noble, tu vois, parce que je pense que je fais des bons produits. Enfin, sans me vanter, tu vois, mais juste parce que c'est du bio, parce que ça vient de la terre, parce que c'est fait avec tranquillité, tu vois, c'est pas du bio industriel fait avec plein de tracteurs. Dans ce sens-là, je dis de qualité.
Tu peux nous parler de ton rapport à la terre ? Qu'est-ce que tu ressens quand tu travailles la terre, et comment tu la travailles ?
Je trouve que c'est un peu être connecté au moment présent de travailler la terre. Mais si tu veux, je te montrerai après, en fait, parce que là, j'ai préparé mes planches. Aujourd'hui, je vais semer les patates, du coup, et les carottes, ces journées racines. Et du coup, ce que je fais, c'est juste... elles sont toutes couvertes par du foin, du broyat, etc. Donc j'enlève cette première couche. Je passe juste la grelinette, en fait, pour enlever un peu le chiendent, là, ou les mauvaises herbes qui ont poussé pendant l'hiver.
C'est quoi la grelinette ?
La grelinette, je crois que ça s'appelle l'aérobèche aussi, il me semble. En fait, t'as 5 pics, t'as 2 manches en bois. Et donc, en fait, ça permet de décompacter la terre, mais sans la retourner. Et donc, du coup, ça, en soi, ça pourrait faire un peu le travail que le motoculteur. Sauf que le motoculteur, lui, il retourne la terre. Et la grelinette, elle retourne pas. Juste, elle te casse un peu les mottes. Ça permet de l'aérer un petit peu. C'est la première fois de l'année que je le fais. J'essaie de le pas faire trop souvent. En fait, ma maître de stage, elle disait qu'on était des éleveurs d'insectes, en fait. Elle n'était pas maraîchère, elle était éleveuse d'insectes, et en fait, c'est eux qui sont censés faire le travail, quoi. Et donc après, une fois que j'ai passé la grelinette, je remets une couche de couverture végétale dessus. Alors ça peut être du foin, ça peut être de la paille, du broyat, des feuilles. Voilà, en fait, j'essaye de récupérer un peu de la matière organique ici, parce qu'ici, il y a pas mal de camping. Donc je les appelle à l'automne, à l'eau. Surtout, gardez-moi les feuilles, du broyat. Tu vois, hier, j'ai fait 2 camions bennes de broyat là, que j'ai récupéré au camping d'à côté. Donc c'est génial. Tu vois, j'ai fait 2 km en voiture, quoi, pour aller chercher des camions bennes. Et donc ça, je le mets sur ma planche. Et après, les petits insectes, ils vont... faut toujours que ce soit un peu humide. Hein, parce que si c'est sec, forcément les bactéries, y en a moins, si c'est que ce soit un peu chaud et humide. Les vers de terre, et puis ils vont remettre tout ça, et puis ça mélange du coup à la terre, et après j'ai une terre un peu meilleure.
Ça, tu le fais toute l'année, ou il y a des périodes
C'est vrai qu'en été, il faudrait que je m'achète des asperceurs, parce que en fait l'été il fait super chaud, et donc du coup en surface ça reste vraiment sec. Et parce que j'arrose qu'au goutte à goutte, donc tu vois, c'est vraiment au pied de mes plantes. Et en fait, si je veux que toute ma couche végétale, elle se désintègre, en fait, qu'elle soit mangée par ces insectes, il faudrait que ce soit tout le temps humide. Et là, sans asperceur, ben, j'y arrive pas. Puis à la main, c'est trop chronophage, donc je le fais pas. Là, il fait un peu froid pour que ça marche vraiment bien. Tu vois, dans la serre, à la rigueur, ça peut marcher un petit peu. Tu vois, il peut faire assez chaud et humide pour que ça fonctionne. Mais en extérieur, c'est pas l'hiver que ça se désagrège, en fait. C'est plutôt printemps, automne, là, quand c'est un peu chaud et humide.
D'accord. Et comment tu fais pour l'eau ?
Je prends dans le tarn, du coup.
Mais l'asperceur, tu dois pas mettre une grosse pression, j'imagine. Tu fais avec un moteur et l'asperceur en continu, ou comment ça fonctionne ?
Du coup, je suis branchée à la pompe électrique de Rosalis, qui est vraiment puissante, pour le coup. L'année dernière, je fonctionnais avec une pompe à eau thermique, et c'était super galère, parce qu'il fallait que j'aille au tarn, il fallait aller chercher de l'essence, fallait aller la remplir, enfin c'était super chronophage. Là, j'ai plus qu'à tourner un bouton, donc c'est cool. Et ça a suffisamment de puissance, en fait, pour envoyer dans des petits asperceurs, tu vois, c'est ce truc-là. Et quand tu fais de la couverture végétale, c'est super important d'avoir un truc comme ça, justement pour ce que je te disais, parce qu'en fait, ça sert à rien de mettre de la couverture végétale si c'est pour que ça reste sec, en fait. Enfin, ça sert à rien. Ça va éviter un peu l'évaporation, mais tout ce qui est le côté nutritif, en fait, de la couverture végétale, tu vas pas pouvoir l'utiliser. Printemps, il y a souvent beaucoup de limaces, donc c'est mieux d'arroser le matin, parce que du coup, les limaces, elles sortent pas quand il fait chaud pendant la journée. Alors que si t'arroses le soir, justement, ben, tu vas permettre aux limaces d'aller dans un milieu chaud et humide. Bon, manger toutes tes petites plantes, donc c'est pas terrible de faire ça. Et en été, il fait tout le temps super chaud, donc ça sèche assez vite. Et c'est vrai que c'est bien de le faire le soir. À 3000 mètres carrés, en deux parcelles, j'ai une parcelle où j'ai mis pour l'instant que des fruitiers, donc surtout des pommiers. J'en prête un petit bout là, à une copine qui veut faire de la gémothérapie. C'est du macérat de bourgeon médicinal. Et donc elle a planté des cassissiers. Et là, je vais tester, je viens de récupérer du broyat, je vais essayer de tester de la culture de patates sans irrigation. Donc j'ai mis une grosse couche de broyat. Et en plus, comme on est près de la rivière, du coup, il y a vraiment pas mal de rosée, tu vois, en journée. Donc je me dis, peut-être les patates vont réussir à pousser sous le broyat. On va tester, hein. Et puis après, sur ma parcelle principale, du coup, pareil, j'ai un peu plus de 1000 m2. Mais bon, comme je me suis fait des allées vraiment grandes... Du coup, j'ai une petite surface quand même de culture, hein, j'ai pas du tout 1000 m2 là-dessus, et là j'ai pas mal de fèves en ce moment, j'ai fait deux planches de fraisiers, voilà, tomates, pois, salade, betteraves, épinards. En fait, je reste plutôt dans du classique parce que c'est vrai que, comme je vois des fois, ce qui sort un peu de l'ordinaire, c'est pas toujours facile à vendre. Je suis en contact avec un restaurant là juste à côté qui est un peu particulier et peut-être qui aime bien faire qui est un peu pas classé. Tu vois, il m'a demandé à avoir des petits pois, mais il m'a dit qu'il voulait des petits pois vraiment tout petits, tu vois. Alors, t'as les merveilles de Quelvedon là qui sont top. Voilà, je sais pas ce qu'il entend par tout petit. Et sinon, je sais pas, je pensais, tu vois, par exemple à la physalis ou là les pâtissons, mais les pâtissons, à mon avis, c'est pas le truc qui va aimer. Donc les gens, ils aiment bien avoir du classique, quoi. Dommage.
Que c'est un métier dont tu pourrais vivre.
Ouais, ouais. Bah surtout ici, là, on n'est pas très nombreux. Et puis il y a de la demande quand même en bio, quoi. Après, j'aimerais bien faire des paniers individuels, tu vois. Là, j'aimerais bien installer une nouvelle serre, là, à l'automne. Pour pouvoir faire plus de légumes en hiver. Après, à mon échelle, hein, je suis pas à faire 100 paniers par semaine, hein, mais... Et puis, on n'a pas besoin d'énormément d'argent pour vivre ici, hein, finalement. On a toute la nature pour jouer, alors ça coûte pas cher.
Donc tu t'en sors au niveau équilibre travail, vie perso, loisirs, tu as trouvé un équilibre ou ce travail te prend beaucoup?
J'ai du mal à te dire pour le moment parce que c'est vrai que j'ai pas trop de recul par rapport à ça. Après, ce qui me plaît ici, c'est que par exemple, tu vois, je peux venir, voilà, il fait pas beau en ce moment, c'est un peu dommage, mais j'aime bien venir travailler ici le matin, puis l'après-midi aller grimper par exemple, tu vois, parce que j'ai pas de transport à faire, tu vois, j'ai tout à côté de la maison, ça c'est un privilège, ouais. Ben, j'étais à la falaise là avec des Parisiens justement et le type il racontait qu'il allait déménager pour aller bosser à 1h30 de chez lui. Enfin moi ça me paraît hallucinant, moi jamais je ferais ça, tu vois, déjà là j'ai 5 minutes, je trouve ça cool, tu vois, et je viens de déménager parce que j'avais un quart d'heure de voiture avant, donc ça me paraît normal en fait de vivre sur le terrain ou presque, tu vois, pour ça, parce que financièrement avec ton gasoil, bah, ça t'est pas rentable en fait.
Tu es attentive au changement climatique, à adapter ta vie à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Comment est-ce que tu vois ça, l'impact du changement climatique sur ton activité ?
Ben, c'est assez flippant, ouais, parce que on irrigue grâce au Tarn, mais c'est vrai que tu vois, l'année dernière, ma crépine, elle était juste en fait au niveau de l'eau. Je l'ai pas reculé, mais c'était limite, quoi. Et c'est vrai qu'on se dit, nous, on est sur une grosse rivière. Pour le moment, je pense qu'on a de l'eau, tu vois. J'espère qu'on verra jamais sécher le Tarn, mais je sais que dans la Drôme, il y a des maraîchers qui n'ont pas pu arroser leur culture l'année dernière parce que la Drôme avait séché, là, par endroits. Donc, ils ont tout perdu. Ouais, c'est flippant, quoi. Après, je me dis, bon, moi, je serais peut-être une des dernières dans le coin à avoir des problèmes de sécheresse, étant donné que je fais de la couverture végétale, du coup, qu'il y a moins d'évaporation, etc. Mais clairement, enfin, moi, on me disait, les tomates, faut pas les arroser tous les jours. Moi, je les ai arrosées tous les jours l'année dernière. Et j'ai pas eu de mildiou, hein. J'ai pas eu de maladie, tu vois, due à l'humidité. Donc, j'avais un ami en Corse, lui, il faisait la même chose que moi. Et alors, il était au bord de la mer. Donc, est-ce que t'avais pas l'humidité aussi? Que lui, il avait pas une super terre aussi très riche, tu vois, il y a ces facteurs-là qui rentrent en compte. Et lui, il arrosait une fois par semaine. Ouais, pourquoi pas? Donc, je pense que tu peux peut-être cultiver un peu sans eau, mais je pense que ça dépend de plein de facteurs environnants, quoi. Avoir des tomates qui résistent à la sécheresse, mais si tu la plantes dans une terre qui est pauvre, où t'as pas d'humidité environnante.
Hier, c'était la journée de la femme.
Ah oui, c'est vrai.
En tant que femme maraîchère, femme qui travaille la terre, est-ce que tu as quelque chose à dire?
En plus de nanas qui se mettent... qui se mettent à l'agriculture et notamment au maraîchage ou même en apiculture qui était, je pense, un peu plus masculin au départ. Donc, faut continuer. Je pense que, voilà, après, je suis pas pro-féministe hein, non plus, mais je pense que sa femme s'émancipe, entre guillemets. On arrive à vivre aussi peut-être plus par nous-mêmes. Donc j'imagine que c'est ça aussi qui fait qu'il y a de plus en plus de femmes qui prennent des initiatives. Après, j'en sais rien, moi je sais pas, j'ai toujours fait... Après, c'est vrai que tu vois, même en tant que monitrice, c'est quelque chose c'est un métier qui est vachement masculin. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de nanas qui essayent de monter des discussions, tu vois, de se retrouver pour parler un peu des conditions de travail. Moi, j'ai jamais eu de problème, en fait. Et pourtant, c'est vrai qu'il y a toujours eu... Enfin, il y a toujours eu plein d'hommes, tu vois, comme collègues, mais...
are fighting. 'cause it is brighter on the outside than it is really on the inside.
La relation au prix, la relation à la qualité, la relation à leurs exigences. C'est justement le goût pour la nouveauté dont tu parlais par rapport à certains légumes.
Ben, je trouve que ce qui est important, en fait, c'est que notre façon de consommer, en fait, c'est aussi une manière de militer. Et je trouve que c'est important, en fait, ben, par nos choix d'achat, ben, en fait, on a une action clairement sur, ben, sur le monde. Là, tout à l'heure, je regardais encore un type là, qui partageait ses sympas ou qui dénonçait ben, voilà, que les terres agricoles en fait, sont en train de se faire acheter par des firmes, par des multinationales en fait, qui sont super riches et qui rachètent beaucoup plus cher en fait, le prix de la terre. Et tout ça pour aller vendre des chips au supermarché, quoi. Bah, je sais pas, par exemple, le fait de boycotter ces chips-là, tu vois, ou boycotter, en fait, tous les produits de multinationales, ben, peut-être que ça les freinerait. Enfin, je trouve que c'est important, en fait, d'acheter local et d'acheter du pas transformé. Et ça évite ben, que les terres, elles soient achetées par des gens qui en prennent pas soin, quoi. Parce que demain, ben... Sinon, on aurait pu à manger de qualité, quoi.
Manger bien, c'est pas si cher que ça, si tu fais attention, quoi, à ce que t'achètes, si t'achètes pas trop de produits transformés.
Pourquoi tu dis en biocoop, c'est pas toujours éthiquement ça?
Parce que je pense que, bah, en biocoop, déjà, ils font pas que du local, hein. T'as des entreprises qui font du bio et qui font pas forcément attention aux conditions de travail de leurs employés, ça dépend lesquels, hein. Quoi, je pense. Et encore, je pense qu'en biocoop, ils font un peu attention à ça, quand même, malgré tout.
Alors là, on arrive donc sur ton terrain. Et qu'est-ce que tu... C'est quoi? C'est le broyeur dont tu nous parlais tout à l'heure, là?
Voilà, donc c'est super local, c'est trop cool, parce que c'est un peu d'acacia, du saule, du peuplier, donc c'est bien riche en sucre pour la terre. Voilà, celui-là, tu vois, il a été coupé il y a quelques jours, donc il est encore très très jeune.
Oui, il sent, oui.
Mais après, c'est vrai qu'ils sont, plus quand il est coupé, ouais. Alors après, je vais peut-être, je sais pas encore, selon ce que je vais planter, repiquer. Tu vois, par exemple, sur les planches de tomates que je vais repiquer au mois de mai, potentiellement, je pourrais en mettre maintenant, parce qu'il a le temps de se dégrader, du coup, jusqu'à ce que je repique mes tomates dessus. Mais après, il faut pas le mettre tout de suite, il paraît, parce que sinon, ça empêche tes plants de grossir, parce qu'il va pomper tout l'azote du sol pour pouvoir faire des champignons, pour pouvoir se dégrader. Et donc, du coup, ta plante, elle n'a plus d'azote pour pouvoir, elle, pousser.
Est-ce que tu le mets directement sur la terre que tu as aérée ou est-ce que tu mets du fumier aussi à un moment de...
Je ne mets pas potentiellement de fumier, je ne m'en empêche pas de le faire. Là, je vais aller récupérer un petit peu de brebis là, chez un copain agriculteur, là. Mais voilà, s'il n'y a pas de fumier en soi, ça ne me dérange pas trop. Mais je pense que je vais en faire un petit peu comme ça, j'aurai des gros tomates.
Mais l'azote, sinon tu le produis comment?
En fait, le broyat, en fait, c'est des nouvelles études qui sont en train de se faire là dernièrement. A priori, le broyat, il est aussi en se décomposant, il est aussi une source d'azote. Alors pas tout de suite, si tu veux. Mais au bout de quelques semaines, voire quelques mois, en fait, il va aussi en libérer dans ton sol.
D'accord.
Donc il va aussi en donner à tes plantes. Voilà, en fait. Toutes les rangées.
Donc là, on arrive à une de tes serres.
Ouais. Donc tu vois, j'avais enlevé de la paille, là. J'avais laissé des résidus de l'année dernière, donc j'ai enlevé. Je passe à la grenière. Et après, du coup, j'ai une copine qui est venue m'aider et on a remis par-dessus du broyat. Et là, tu vois, j'ai arrosé. Du coup, dans ma serre, j'ai arrosé avec l'asperceur. Donc, on voit que c'est un petit peu humide. Et donc là, ça leur a fait du bien aux fèves. Là, elles se sont remises debout là, après les gelées. Donc, ça apporte de l'azote. Voilà, si tu vois, il y a déjà des petites fleurs. Donc, elles vont attirer les pollinisateurs. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu déjà une première coccinelle. Ça va attirer les pucerons, du coup, pour attirer les coccinelles. Après, il y en a quelques-unes qui servent un peu de sacrifice aussi pour les pucerons.
C'est-à-dire que tu laisses la plante aux pucerons?
Voilà. Et ce que me disait ma maître de stage, c'était important surtout de ne pas les tuer, en fait, parce que c'est eux qui vont attirer les coccinelles à l'intérieur de la serre et du coup qui vont protéger un peu les autres plants. Et puis j'aime bien aussi les fèves. Tu vois, regarde, on parlait de légumes qui n'étaient pas trop demandés. Et c'est vrai que la fève, après, c'est vrai que c'est peut-être un peu cher. Mais c'est vrai que ce n'est pas un légume qui est forcément facile à vendre. Et pourtant, c'est ultra bon. Tu les fais un petit peu blanchir là, dans une petite poêle. Voilà, 10 minutes. Après, tu mets un peu d'huile d'olive et du sel. Et c'est trop bon, quoi.
Et alors, les coccinelles, ça sert à quoi dans une serre?
Et bien justement, à manger les pucerons qui viennent manger tes plantes. Et là, j'ai planté aussi, j'ai semé un petit peu de mesclun, tu vois, sur le côté, dans la rangée, là. On va voir ce que ça donne.
Le mesclun, c'est un
essai. C'est un mélange de salade.
D'accord.
Tu sais, à couper. C'est des jeunes pousses, en fait, que tu coupes de différentes variétés. Donc, plein de couleurs, plein de saveurs différentes.
Et donc, cette serre, il y a des fils qui pendent un peu partout, c'est quoi?
Ça fait clodo, hein.
Ça fait clodo, pas du tout, au contraire. C'est magique.
Ah ouais?
C'est quoi?
Et du coup, c'est mes ficelles pour mes tomates, ouais. Là, c'est vrai que ça fait pas très rangé, mais du coup, comme je vais remettre mes tomates à cet endroit-là, tu vois, cette serre, elle est un peu petite, donc je les mets au milieu. Et du coup, j'accroche la ficelle au pied, elle est accrochée tout en haut de la serre, et du coup, j'enroule mes tomates au fur et à mesure où elles poussent autour de la ficelle.
Très bien. Et tu arrives à mettre combien de pieds dans une serre comme ça?
On est une centaine, là.
Ah oui.
Donc elle reste couverte et c'est vrai qu'en été, il fait super chaud. Alors une astuce pour ceux qui ont des serres et où il fait trop chaud l'été, en fait, il faut la chauler. Donc tu fais un petit lait de chaud que tu pulvérises après sur ta serre et du coup, ça empêche les UV de rentrer. Et moi, cet été, j'avais moins chaud dans ma serre qu'à l'extérieur.
C'est vrai que tu as des apports. Est-ce que tu mets quand même des produits quelque part?
Je mets juste de l'anti-limace parce que sinon, c'est impossible d'avoir des légumes feuilles, ouais.
D'accord.
Mais clairement, quoi. Là, tu as les petites pousses d'épinards et de blettes. Là, c'est régal là, pour les limaces.
Il n'y a pas un prédateur naturel de la limace, genre hérisson?
Et oui, mais comme c'est clôturé, du coup, il ne peut pas rentrer. Non, après, il y a les canards coureurs indiens. Mais bon, j'ai déjà un chien, je ne vais pas me mettre des animaux en plus. Après, il faut s'en occuper tout le temps. On y avait pensé avec les voisins, avoir des canards en commun pour qu'on se partagerait pour nos différents potagers. Mais non, on ne l'a pas fait. Peut-être ça viendra un jour, ce serait cool. Donc j'ai 4 rangs de fruitiers, tu vois, séparés d'une dizaine de mètres. Donc l'intérêt, ce sera à terme aussi d'avoir des fleurs de fruitiers, tu vois, pour les insectes pollinisateurs. Et aussi de faire un peu d'ombre du coup pour mes cultures. Et puis pour moi, d'avoir une récolte de fruits. Utiliser les feuilles, tu vois, pour enrichir le sol, du coup, de matière organique. Et donc, moi, je cultive, entre mes allées de fruitiers. Donc, c'est vrai que tu as le soleil plein pot le midi. Et après, matin et après-midi, c'est plus à l'ombre. Voilà, les tomates, elles poussent clairement, en fait. En pénombre, on pourrait dire, où ça sert à rien de les mettre en plein soleil. Voilà, trop longtemps. Parce que c'est pareil, en fait, les tomates, elles aiment pas, c'est comme pas mal de légumes, en fait, ils aiment pas avoir trop chaud. Tu vois, ils aiment pas les grosses différences de température. Là, dans ma serre, j'avais des haricots, en fait, ils m'ont pas donné jusqu'à ce que je chaule ma serre, en fait, parce qu'ils avaient trop chaud la journée. Donc, du coup, là, il n'y a pas de fleurs, ça, je sais pas où, ça sécrète pas de nectar, et donc, j'avais pas de fruits, en fait, jusqu'à super tard. Alors entre mes arbres fruitiers, j'ai semé pas mal de fleurs. Donc là, tu vois, t'as les semis spontanés de nigel. J'ai pas mal de sauge. C'est la sauge sclarée aussi. J'adore. C'est trop trop beau. Et puis ça attire pas mal les pollinisateurs. J'avais pas mal de cosmos aussi. J'adore ces fleurs. Qu'est-ce qu'on avait là-bas? Les œillets de dinde un petit peu. Là, j'avais... c'est tout nouveau, c'est tout petit, hein, mais je vais me faire un petit carré un peu plus grand là d'aromatique avec la coriandre vietnamienne, qui a un petit goût de coriandre, mais un peu plus piquant et qui n'a rien à voir au niveau de la feuille, qui n'a rien à voir avec la coriandre. Voilà, et puis je vais essayer de planter pas mal de coriandre, du coup, sur le terrain, parce que, notamment au niveau des patates, il paraît que ça repousse les doryphores. Et puis je vais essayer de planter... No way.
Un grand merci Bérangère. Nous nous retrouvons, chers amis auditeurs, la semaine prochaine chez Loïc et Mélissa à Broquies et leur brebis laitière.